le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, un enfant de 13 ans décapité après avoir tenté de s'échapper d'un groupe armé au Nord Kivu. Une horreur parmi tant d'autres infligées aux enfants par les groupes armés. La MONUSCO s'insurge contre ces crimes et exhorte le gouvernement à arrêter et poursuivre leurs auteurs. Le Conseil de sécurité est frustré par le manque de progrès dans les opérations contre les FDLR. Dans cette édition, la restitution de Martin Kobler après son dernier voyage de New York. L'actualité, c'est aussi le respect des droits de l'homme en période électorale et l'élargissement des champs des libertés d'expression et de la démocratie. C'est le message du patron de Human Rights Watch lors d'une visite de travail à Kinshasa. Kenneth Roth a rencontré les chefs de l'État et d'autres autorités du pays. Il est l'invité des magazines des Nations Unies.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. Informez l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Les recrutements forcés des enfants se poursuivent par les groupes armés dans l'est de la RDC et selon la MONUSCO, par sa section de protection de l'enfant, la tendance à vouloir s'échapper de ces groupes armés pour ces enfants se poursuit aussi. Une tendance qui souvent, hélas, débouche sur des horreurs que la MONUSCO condamne. Honoré Misenga Kalala nous en dit plus.
C'est un message pathétique de la MONUSCO par la voix de son porte-parole. Le recrutement forcé des enfants par les groupes armés se passe lors des enlèvements violents et souvent aussi ces enfants sont soit témoins des atrocités commises, soit parfois obligés de les commettre eux-mêmes. Félix Bass rapporte ces cas illustratifs.
Un garçon de 13 ans a été décapité après avoir tenté de s'échapper d'un groupe armé au Nord Kivu. Au moins 73 enfants ont été tués ou mutilés à la suite des violences liées au conflit cette année. La MONUSCO réaffirme avec force que ce phénomène doit cesser pour le bien-être des enfants.
On ne le dira jamais assez. La vie d'un enfant dans un groupe armé est une horreur, rappelle le porte-parole de la mission onusienne en RDC avant d'interpeller les groupes armés et le gouvernement.
La MONUSCO demande aux leaders de groupes armés à libérer les enfants présents dans leur rang. Ce sont des enfants, pas des soldats. En outre, nous exhortons le gouvernement de la République démocratique du Congo à arrêter et à poursuivre les auteurs de ces crimes.
Selon la protection de l'enfant de la MONUSCO, au total, plus de 1070 enfants associés aux groupes armés ont déjà été répertoriés au cours de cette année 2015.
Autre actualité de la semaine, la problématique des opérations contre les FDLR, le processus électoral et les dialogues stratégiques MONUSCO-gouvernement ont été au centre de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la situation de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé mercredi dernier à Kinshasa Martin Kobler dans sa restitution devant la presse. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU revenait justement de New York où il a présenté le 14 juillet dernier devant l'exécutif des Nations Unies son rapport trimestriel sur la RDC. Martin Kobler résume les idées fortes de cette réunion dans ses propos recueillis par Honoré Misenga Kalala.
La réunion du Conseil de sécurité à New York la semaine dernière, ils se sont focalisés sur trois sujets. Premier sujet, naturellement, la situation sécuritaire. Nous sommes une opération du maintien de la paix et le progrès ou non-progrès de la situation sécuritaire en RDC, ici, en particulier à l'Est. Une grande frustration de tous les membres du Conseil de sécurité qu'on n'a pas de progrès dans les combats contre les FDLR. J'ai informé le Conseil de sécurité sur les opérations contre les FRPI. Ce sont les opérations les plus efficaces depuis la chute des M23. c'était beaucoup apprécié, mais le manque du progrès contre les FTLR, alors c'était un sujet qui était discuté au sein du Conseil de sécurité par tout le monde. Deuxième sujet était les élections et les consultations qui pourraient mener à un dialogue politique du président. Aussi, j'ai informé le Conseil de sécurité dans une réunion publique, mais aussi dans la réunion, puis les discussions internes sur l'état de droit dans les élections et les échéances, les problèmes sur la table, le problème des nouveaux majeurs, le problème des échéances du calendrier électoral. Et le Conseil de sécurité a réaffirmé sa position que le calendrier électoral doit être gardé. Troisième sujet était le dialogue stratégique avec le gouvernement. J'en ai parlé ici aussi plusieurs fois. Comme vous savez, avons eu une évaluation conjointe avec les gouvernements. Des équipes conjointes ont été sur le terrain dans tous les 29 territoires. Ils sont maintenant en train de finaliser un rapport, une évaluation conjointe sur la situation sécuritaire et comment procéder maintenant avec une réduction peut-être des troupes plus tard, au-delà de 2000. J'ai constaté à New York une unanimité au Conseil de sécurité, une grande appréciation pour ce que la mission a fait dans les bons offices, le rôle des élections, mais aussi à l'est du pays, avec la force contre les groupes armés, le progrès contre les FRP, mais comme j'ai dit, aussi une unanimité dans la frustration que le dossier des FTLR n'avance pas.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans le cadre de son programme d'appui aux médias en matière de couverture du processus électoral, le bureau de l'UNESCO Kinshasa a organisé le 13 juillet dernier un atelier sur la prévention des infractions de presse et des fautes professionnelles à éviter pendant les élections. Une cinquantaine de participants représentant plusieurs médias de la place ont pris part à cette formation animée par un consultant de l'UNESCO sur les questions en rapport avec les infractions de presse. Il s'agit de Maître Charles Mouchard Chizi, avocat et président de l'ASMEL Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles. Suivez l'entretien que le juriste a eu avec Honoré Missenga Kalala autour des concepts infraction des presse et faute professionnelle.
Maître Charles Mouchizi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez animé la semaine dernière à Kinshasa un atelier sur la prévention des infractions de presse et des fautes professionnelles à éviter pendant la période électorale. D'abord, Maître, qu'entendez-vous par infraction de presse?
C'est la loi qui définit ce concept, l'article 74 de la loi du 22 juin 1996 qui fixe les modalités d'exercice de la liberté de la presse en RDC, qui définit l'infraction de presse comme toute infraction commise par voie de presse. Voilà, simplement.
Alors, quelles sont les infractions de presse les plus courantes commises en RDC?
Il s'agit le plus souvent de toutes les infractions commissibles par le cri, l'écrit ou la parole. Et généralement, c'est du genre imputation dommageable ou diffamation, l'injure, toutes sortes d'incitations ou d'outrages qui peuvent être tirés justement des faits du travail du journaliste.
Venons-en à la période électorale. Quelles sont les infractions que les professionnels des médias peuvent commettre et quelles sont les peines liées au processus électoral?
Oui, il y a typiquement 4 infractions qui sont prévues à la fois par la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais aussi la loi électorale tout récemment modifiée. C'est la loi de 2011, telle qu'elle est modifiée à ce jour, et qui prévoit notamment l'infraction de non-respect du principe d'égalité des candidats. Elle prévoit aussi la divulgation des renseignements individuels en matière électorale. Elle prévoit en outre l'interdiction de faire campagne en dehors de la période électorale et la recherche et communication sur le vote d'autrui sur le lieu du vote. Et donc il s'agit des infractions qui sont très très nouvelles par rapport au contexte congolais, par rapport au pays qui vient de se replonger dans les habitudes électorales, mais qui sont malheureusement assez lourdement chargées en termes de pénalités et affectées. On trouve par exemple qu'il y a ces infractions pour lesquelles le journaliste peut encourir jusqu'à 12 mois de prison et avec paiement d'amende allant jusqu'à 1 million de francs congolais. Donc c'est véritablement des questions qu'il faut encore revoir en termes de réforme pour essayer d'alléger ne serait-ce que le taux de pénalité et donner un peu de la chance à plus de liberté d'expression, plus de liberté de critique des médias. Mais en attendant, je crois, le contexte se porte comme il est. Les professionnels doivent prendre toutes les mesures de garde, toute la responsabilité sur eux de ne pas justement commettre ce genre de fautes qui peuvent être lourdement sanctionnées par la justice.
L'autre concept, c'est celui des fautes professionnelles. Dans quelles circonstances, maître, un professionnel des médias peut-il être accusé d'une faute professionnelle?
En fait, toutes ces infractions peuvent aussi constituer des fautes professionnelles, mais les fautes professionnelles ne sont pas forcément des infractions. Les fautes professionnelles sont des atteintes, des violations des règles d'éthique et de déontologie qui sont attachées à la profession de journaliste. Par exemple, ne pas supporter un confrère lorsqu'il est en difficulté, ne pas lui apporter le soutien nécessaire, ou plagier, ou faire de la contrefaçon sur les œuvres d'autres confrères journalistes. Tout ça, ça constitue des fautes professionnelles. L'indignité, la dépendance, la non-identification de sources peut porter atteinte à un confrère, et donc des valeurs qui sont consacrées par le code et qui ne peuvent pas être transgressées sans se voir être réprimées sur le plan professionnel, notamment par le régulateur ou l'autorégulateur ou même par la corporation elle-même.
D'après vous, maître, quels seraient les facteurs qui favorisent en RDC la commission par de nombreux professionnels des médias, des infractions de presse et des fautes professionnelles?
D'abord, c'est l'ignorance, de texte. La plupart d'entre eux ne connaissent pas les textes qui régissent la profession. Ensuite, il y a une sorte de tolérance inacceptable dans le chef d'un certain nombre de structures professionnelles qui ne prennent pas rapidement le courage de sanctionner de manière pédagogique pour prévenir que d'autres fautes ne se commettent pas. Enfin, il y a cette question toujours récurrente des mauvaises conditions de travail au sein des rédactions qui font malheureusement que la plupart des professionnels des médias dépendent largement de leurs sources d'informations en termes de revenus. Et donc, n'ayant pas de salaire, ils sont obligés de mendier presque, excusez-moi le mot, mais cela ne favorise justement pas le professionnalisme.
Donc, pour combattre ces maux, il faut absolument qu'on trouve des solutions à ces trois causes.
Oui, ces trois causes sont interagissantes. Il faut améliorer la formation des professionnels des médias. Il faut leur inculquer la culture de la lecture. Il faut disponibiliser donc des documents au sein des rédactions pour que justement ils lisent et qu'ils sachent au moins quels sont les principes qui régissent leur profession. Mais aussi il faut que la profession elle-même soit un peu plus rigoureuse du point de vue de la répression de fautes. Enfin, la question des contrats de travail au sein des rédactions, elle est vraiment très très importante parce qu'elle est la seule qui peut sauver encore l'indépendance du professionnel.
Vous êtes juriste, consultant au bureau de l'UNESCO. Quel rôle l'UNESCO entend-elle jouer par rapport au processus électoral, notamment avec les médias congolais?
Je ne me mettrai pas à la place de l'UNESCO pour répondre à cette question, mais que je sache, cette série de formations qui vient de commencer par Kinshasa pourrait s'étaler aussi sur le reste des provinces. Et donc, c'est une question essentielle de renforcement de capacité des professionnels des médias et des médias eux-mêmes dans la couverture électorale. Voilà. Mais pour le reste, je crois que c'est une question à laquelle l'UNESCO peut répondre plus valablement.
Maître Charles Mouchizi, merci.
Ouvrons cette page des nouvelles en plus bref par la ville de Goma au Nord Kivu, où 47 femmes ont été formées sur l'importance de la participation de la femme au processus électoral et sur les enjeux des élections dans un pays. La formation a été organisée la semaine dernière par le bureau Jean de la MONUSCO. L'appropriation de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 ainsi que de la loi sur la parité a également été au centre de cette formation. Des hommes y ont aussi pris part. Nous sommes des enfants, pas des soldats. C'est le titre d'une chanson dont le clip vidéo a été lancé le 21 juillet 2015 à Goma toujours. Cela à l'occasion de la commémoration par la MONUSCO et l'UNICEF du 10e anniversaire de la résolution 1612 de l'ONU. Une résolution qui a établi les mécanismes de surveillance et des rapports sur les 6 violations graves commises sur les enfants dans les conflits armés. La chanson est interprétée par le chanteur de Goma David Doub. Enfin, quittons Goma pour Kinshasa, où le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les ministères du plan réfléchissent sur les thèmes du rapport national sur le développement humain 2016. Un atelier a été organisé à cet effet jeudi dernier pour identifier les thèmes centraux de ce rapport national 2016. Toutes les composantes de la société congolaise devaient y prendre part, représentants du gouvernement, de la société et du monde universitaire congolais, des jeunes et des femmes notamment.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité ce dimanche, c'est Kenneth Roth, le patron de Human Rights Watch. Il a effectué une visite de travail à Kinshasa la semaine dernière. Monsieur Roth a eu des entretiens avec le chef de l'État et d'autres autorités congolaises. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco sur ses entrevues et d'autres questions relatives aux droits de l'homme en RDC. Suivez.
Kenneth Roth, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de Human Rights Watch.
Exactement.
Vous êtes en visite en République démocratique du Congo. Quel est l'objet de votre séjour à Kinshasa?
Premièrement, ça me fait grand plaisir d'être à la radio Okapi, qui est très connue et qui joue un rôle très important.
Merci.
Je suis venu au Congo parce qu'évidemment, on entre dans une période électorale qui est très importante. Et il faut sûrement, pendant cette période, que les libertés soient respectées. La liberté de la presse, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester. Et il y avait des problèmes. Tout le monde est conscient de ça. Et donc, on est venu pour parler avec les autorités, mais aussi avec des victimes, des ONG, des membres de la presse, pour essayer de convaincre tous qui suivent les situations de respecter les droits de l'homme. Et c'est parce que si les élections seront vraies et libres, c'est absolument essentiel que toutes les libertés, tous les droits humains soient respectés strictement.
Vous venez d'avoir des entrevues avec les différentes autorités congolaises. Autour de quoi ont tourné effectivement vos entretiens?
Alors, peut-être l'entretien le plus important, c'était avec le président. Nous avons parlé avec lui surtout de la situation électorale. Et nous avons souligné l'importance de respecter le droit de manifester, le droit d'être critique du gouvernement. Et en principe, il est d'accord. Il reconnaît que sous une démocratie, il doit y avoir des débats, il doit y avoir des critiques. Il accepte. Mais il parlait aussi de sa crainte de l'anarchie. Et nous avons parlé de la différence entre la démocratie et l'anarchie. Et moi, j'ai essayé de lui convaincre que la démocratie doit être entendue d'une manière très large, avec beaucoup d'espace pour les critiques, beaucoup d'espace pour les manifestantes, beaucoup d'espace pour les débats qui sont normales, surtout pendant une période électorale.
Justement, les relations entre votre organisation et les gouvernements congolais sont parfois tumultueuses, il faut le reconnaître. Vos rapports d'enquête sont souvent contestés ici. Peut-on dire aujourd'hui que ces relations se sont améliorées, notamment à la faveur de votre visite en République démocratique du Congo?
Je crois que les relations entre le gouvernement congolais et Human Rights Watch sont assez respectueuses. Nous avons un dialogue très ouvert avec le gouvernement. Parfois, Human Rights Watch aide beaucoup le gouvernement. Par exemple, c'est nous qui a documenté le soutien rwandais pour la groupe armée M23. En travaillant avec le gouvernement.
Monsieur Roth, vos rapports sont souvent contestés par les autorités gouvernementales ici à Kinshasa.
C'est vrai, ils nient les faits dans nos rapports. Ils ne sont pas d'accord avec les recommandations que nous faisons. Mais c'est pour ça que je suis venu ici à Kinshasa, parce que c'est très important de parler directement avec les autorités. Et enfin, on leur a pressé de terminer l'impunité pour les abus, de libérer des gens qui sont en prison uniquement parce qu'ils étaient contre les plans gouvernementaux. Bien, ce qui en craint sera le glissement dans la présidence.
Voilà, nous allons y arriver. Parlons de deux ou trois affaires et surtout de vos rapports, justement. D'abord, le 13 juillet dernier, votre ONG a lancé un appel au gouvernement congolais ainsi qu'aux forces des Nations Unies de tout mettre en œuvre pour arrêter Sylvestre Mudashumura, leader de FDLR. On sait que la MONUSCO a promis sa collaboration. Quelle est à ce sujet la réaction du gouvernement congolais? Avez-vous évoqué cette question lors de vos entretiens?
Oui, absolument. En fait, j'ai parlé du cas de Mudashumura avec MONUSCO et aussi avec le gouvernement. Et tout le monde est d'accord qu'il voudrait arrêter Mudashumura. Mais personne, pour l'instant, de prendre la responsabilité eux-mêmes pour procéder.
Vous avez l'impression que le gouvernement prenait les pieds?
Pour l'instant, oui. Mais j'ai parlé de ce sujet avec le président.
Le président Kabila?
Kabila, oui. Et il est d'accord qu'il voudrait arrêter Mudaa Camara. Mais c'est une question de logistique, c'est une question de planification.
Une autre affaire, c'est la fosse commune de Maluku. Votre ONG a toujours demandé une enquête, l'exhumation des corps par le gouvernement. Mais près de 4 mois après le fait, votre demande est restée lettre morte. Qu'est-ce que vous pensez alors de la suite de cette affaire, si l'on considère les familles des victimes?
Oui, enfin, pendant ma visite ici à Kinshasa, j'ai parlé avec plusieurs familles des victimes de l'opération de Kofi.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ils m'ont écrit par des faits horribles. Il faut se dépêcher. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il faut exhumer cette fosse commune et on va voir ce qu'il y a.
Une autre affaire, c'est celle des deux activistes de la plateforme Filimbi, que vous connaissez bien,
oui,
qui seraient toujours en prison malgré les plaidoyers de votre organisation et la recommandation de l'Assemblée nationale pour leur libération. Est-ce que vous avez évoqué ces cas avec les autorités congolaises? Avez-vous obtenu une promesse?
J'ai bien parlé à Filimbi avec le président et les autres autorités. Mais j'ai aussi parlé avec des membres de Filimbi. Et moi, je suis absolument convaincu que cette organisation n'était qu'un effort par les gens, les étudiants, de mobiliser les autres pour participer dans les élections. C'est absolument normal dans une démocratie. Ils doivent être libérés absolument. J'ai parlé même avec le président.
Une question qui vous est tout à fait personnelle.
Oui.
Vous lisez beaucoup. Les droits de l'homme, pour vous, c'est vraiment une passion depuis votre enfance.
Oui.
Vous voyagez beaucoup à travers le monde.
C'est vrai.
Si vous êtes attaché à votre culture d'origine, la culture juive. Et alors, avec l'expérience que vous avez, quelle idée vous faites justement de l'évolution des droits de l'homme dans le monde et surtout en Afrique centrale et pourquoi pas en République démocratique du Congo?
Alors, ce qui m'inquiète en ce moment en Afrique centrale, c'est la tendance des présidents de se voir indispensables. Personne n'est indispensable. On voit ce qui se passe en ce moment au Bujumbura où le président cherche un troisième terme et il a enfin réinterprété la Constitution et ça a mis en voie des grandes manifestations, la violence et les grands problèmes pour le pays de Burundi. En Rwanda, c'est à peu près la même chose. Kagame, il est en train de créer un troisième terme pour lui. Je crois qu'au Rwanda, Kagame va réussir parce qu'il n'y a pas d'opposition d'études. Ici, on a parlé avec le président de cette question et il nous a dit que c'est très important de reconnaître qu'il n'a pas prononcé publiquement sur la question d'un glissement ou d'une extension de sa terme présidentielle. Il nous a souligné l'importance de ne pas assumer une conclusion à cette question. Et moi, je lui ai dit qu'il peut jouer un rôle historique dans ce pays. Il pourrait être premier président qui finit sa terme et qui part avec une nouvelle élection. Ça serait historique en créant une fondation pour la démocratie, une fondation dure et qui dure pour le pays. Ça serait un rôle absolument historique. Moi, je l'ai encouragé d'accepter ce rôle et de reconnaître qu'il y a un avenir pour lui, un futur, où il pourrait continuer à servir le peuple congolais, mais sans la position présidentielle.
Kenneth Roth, vous remercions aussi de votre disponibilité d'être venu ici au studio de Radio Capi.
C'est absolument mon plaisir. Merci.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, veut encourager la scolarisation des enfants dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri. Le taux de fréquentation scolaire était de 21% au niveau primaire et de 14% au niveau secondaire au cours de l'année scolaire 2014-2015, selon des statistiques fournies en début de semaine par la division locale de l'enseignement primaire et secondaire. C'est à l'issue d'un atelier de planification de la distribution des fournitures scolaires dans une centaine d'écoles primaires de ces territoires pour l'année scolaire 2015-2016. Isaac Remoyope.
Selon les résultats des enquêtes menées par l'EPESPEN Ituri, le territoire de Djougou est l'entité la plus peuplée de la province de l'Ituri, avec environ 2 800 000 habitants, mais avec un faible taux de scolarisation au niveau primaire et secondaire. Et pourtant, cette entité regorge environ 440 écoles primaires et 139 écoles secondaires officielles et conventionnées, sans compter les écoles privées. Pour la société civile locale, ce faible taux de scolarisation est dû à la pauvreté et aux activités minières et des pêches qui attirent les enfants. Madoua Malo, délégué de la cité civile.
L'autorité de Ndjougou, un tel territoire qui a été vraiment sinistré par la guerre, les parents sont pauvres. Avec l'exploitation artisanale de l'or, l'encadrement des enfants aussi pose beaucoup de problèmes. Les enfants, déjà au niveau de 10, 13 ans, sont tentés déjà d'aller dans des carrières.
Pour encourager la scolarisation des enfants, l'UNICEF s'engage à distribuer des kits scolaires à 427 écoles primaires au cours de cette année 2015-2016. Les chefs de division intérimaire de l'EPSP Anitouri demandent aux parents de faire inscrire massivement leurs enfants à l'école. Jean Donatien Ougnaï.
Nous voulons, avec cette campagne, atteindre en tout cas le maximum d'enfants. Les parents sont appelés à inscrire massivement leurs enfants à l'école, surtout les enfants de 6 à 7 ans.
Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
La question nous vient de la localité de Bualanda, dans le territoire de Rutshuru, qui est vidée de ses habitants après l'incendie d'un camp de déplacés. Quelle est la situation actuelle? La question a été posée au chef de bureau de la MONUSCO Goma. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Suivez la question et la réponse recueillie par Honoré Missinga.
Ma question s'adresse au chef de bureau Goma. Quelle est la situation actuelle dans les régions où les habitants ont vidé à la localité de Bualanda après l'incendie de l'état d'électricité?
Effectivement, il y a eu le camp de déplacés qui a été brûlé il y a quelques jours. La première réaction, ça a été déployer la force de la MONUSCO sur place. Les trois communautés de la zone se sont réfugiées chacun dans la ville où ils sont majorité. On a fait une mission de reconnaissance pour établir les faits qui sont arrivés là-bas, une mission civile de droits de l'homme qui nous a amené certains faits. Le gouverneur et moi-même irons sur place pour parler avec les différentes communautés et pour trouver une solution. On sait qu'il y a des tireurs de ficelles derrière ces affrontements. Je ne crois pas qu'il y ait aucune communauté qui ne puisse pas convivre avec une autre. Et vous savez mon opinion, quelles sont les motivations derrière ces tireurs de ficelles? Ils gagnent de l'argent avec.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour chers auditeurs de Radio Kapi, je m'appelle Jordan Blaise Shindari Kambala. Je suis marié et père de 5 enfants, 2 jolies petites filles et 3 garçons. En ce qui concerne ma formation, j'ai fait mes études primaires chez les catholiques à Saint-Georges, pour ceux qui connaissent la commune de Kitambo. Mes études secondaires chez les prêtres toujours, mais cette fois-là à Kikwit, dans la province de Bandundu. Comme études universitaires, j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication, option communication des organisations, à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACI Cancille. Au sein de la MONUSCO, j'occupe la fonction de Press and Info Assistant. Et c'est depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Présentement, je suis commis à la présentation du journal en Kikongo et je suis aussi traducteur en Kikongo et en Lingala. Dès que j'arrive au bureau, je commence par participer à la conférence de rédaction de la mi-journée. Cette conférence sert à préparer les journaux du soir et jette déjà les bases pour ceux de demain matin. Outre les journaux parlés, je dois aussi apprêter le journal des régions en Kikongo qui passe le lendemain dans la tranche 12-13. Avant de venir travailler à la MONUSCO, j'étais d'abord à la presse écrite. J'ai fait mes débuts quand j'étais encore étudiant en G1. Je faisais les piges au journal À Propos, qui était un hebdomadaire. Après, je suis parti au journal de poste de Kile Bapo Kames comme éditeur et Hugues Mike Mukeba Nkoso comme directeur de publication. J'ai ensuite fait un petit crochet chez Antenne A, où j'ai passé presque 3 mois. Mais puisque la signature du contrat ne suivait pas, comme promis, j'ai dû arrêter. Mais après le journal de poste, je suis passé d'abord à Congo News avec Mike Mukebai et Molendo Sakombi. Ensuite, nous avons créé un bi-hebdomadaire Kine News avant que je n'atterrisse à la radio de la paix. Voilà un peu succinctement mon modeste parcours. Mon temps libre, je l'ai consacré entièrement à ma famille. Ça veut dire que je le passe ensemble avec mes enfants et ma charmante épouse, à qui je fais un petit coucou en passant. Blaise Shindari Kambala adore la musique qui rend gloire en l'éternel des armées. C'est la seule musique que vous trouvez dans ma voiture. Mais j'écoute aussi la musique dite profane, parce que ma profession de journaliste m'y oblige.
En ce qui concerne le sport, je suis un fan inconditionnel du sport roi, du football. Tous mes collègues de service le savent. Et si mon club chéri perd un match, même si c'est pas mon jour de service, je reçois des coups de fil, même de mes collègues femmes qui n'arrêtent pas de me taquiner. Mais il y en a quand même une qui m'encourage, c'est Babel Mpongo Masimango, parce que son dernier fils supporte le même club que moi. Je ne suis pas compliqué en ce qui concerne les mets. Le pondou accompagné des anguilles reste mon plat préféré. Mais avec le démembrement de la province du Bandundu, les anguilles ne seront plus l'aliment de base de ma province du Kwilu. Quel dommage. Enfin, en ce qui concerne mes projets d'avenir, je voudrais bien créer ma propre entreprise de communication. Sinon, j'ai aussi un faible pour la politique. Ça sera un sacrifice de ma part de faire la politique autrement pour relever tant soit peu les niveaux de la République démocratique du Congo, mon beau et cher pays qui continue à marquer les pas pour son développement. Merci, chers auditeurs de Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous pour cette semaine, formation de 9 membres et du personnel d'appoint de la Commission nationale des droits de l'homme. Une formation organisée par le BCNUDH à Kisantou du 26 au 30 juillet. C'était un réel plaisir de vous avoir informé et merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies, une édition coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage. La mise en onde était assurée par Guy Manzangou et Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Au revoir.